Nous sommes aujourd'hui, vendredi saint. J'ai trouvé adéquat de parler de la souffrance. Et la souffrance dans le bouddhisme, ce n'est pas vraiment la souffrance, c'est ce qu'on appelle dukkha. Ce sont les conditions du monde, les conditions dans lesquelles nous naissons. Annick de Sousnel parle de la venue de l'homme sur Terre comme un exil. Nous sommes en exil d'une appartenance plus globale, plus générale. Tout à coup, nous tombons dans un corps limité par la race, la nationalité, le genre, la personnalité. Il y a des grands, des petits, des malins, des bêtes, des sages, des aveugles, il y a de tout. Et puis tout d'un coup, on tombe dans un corps, et puis ça y est, on est dans celui-là, quoi. Dukkha, c'est ce qu'on appelle dukkha. Nous ne pouvons pas être tout. Nous sommes limités. Dukkha, on traduit souvent ça par souffrance. Le préfixe duk, c'est quelque chose qui est pas rond, qui est pas équilibré. Et le cas, c'est l'axe. Donc c'est comme une roue qui ne tourne pas rond. Et c'est vrai que si nous regardons notre monde, on ne peut pas vraiment dire qu'il tourne bien rond. Et si nous regardons nous-mêmes, dans notre personnalité, je ne sais pas si vous êtes parfait, mais personnellement, je ne le suis pas. Et il y a cette quête perpétuelle d'équilibre, un peu de survie. C'est ce qu'on appelle dukkha. Et le Bouddha a dit, je suis venu vous apporter la souffrance et la fin de la souffrance. Il est venu nous apporter cette rencontre avec dukkha qui est essentielle si nous voulons pouvoir lâcher cette manière de ne pas tourner rond. Et c'est exactement le message symbolique que donne Jésus lorsque il monte sur le Golgotha. À l'extérieur, on peut voir cette dureté, cette limite des lois du monde où on punit. On tue pour une soi-disant faute. Et Jésus est crucifié comme on crucifiait les gens à l'époque. À l'intérieur, Jésus est d'accord d'être crucifié. Et c'est tout ça, ce message. Il comprend que si la résurrection veut pouvoir se passer, si nous voulons expérimenter la fin de la souffrance, il faut expérimenter la souffrance. Et c'est tout le message de tous les grands mystiques de tout temps. La libération de la souffrance n'est pas à côté de la souffrance, elle est à l'intérieur. Et si nous voulons pouvoir aller au-delà, nous n'avons pas vraiment le choix. Soit nous restons dans cette quête impossible de plénitude, dans un monde qui, par définition, est duel. Soit nous acceptons d'entrer dans ce non-répit, mais dans cette beauté, d'un regard clair sur les choses telles qu'elles sont et qui nous libère de l'aveuglement. La libération, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Ça a à voir avec ce que nous faisons là. Et dans l'image du Christ sur la croix, il y a ce beau moment où il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font ». Dans le bouddhisme, on parle de la cause de la souffrance qui est l'aveuglement. Nous ne savons pas. Nous ne sommes pas fautifs, nous ne sommes pas mauvais, mais nous ne savons pas. Et alors le pardon nous est donné par définition. Nous ne pouvons pas punir l'aveuglement. Et il y a cet autre moment où tout à coup Jésus doute. Il dit « Mon Père, m'as-tu abandonné ?» Et ce doute est quelque chose qui vient souvent comment faire confiance à l'expérience quand elle est douloureuse? C'est une immense question. Parce que le doute vient toujours d'une expérience désagréable et douloureuse. Ça fait mal psychologiquement, physiquement. Qu'est-ce que j'ai fait faux? Et de pouvoir comprendre que nous n'avons rien fait de faux, mais qu'au contraire, ces moments douloureux sont une forme de chance pour nous permettre de vérifier que la libération est bien à l'intérieur de la souffrance et pas à côté. C'est même et surtout lorsqu'il y a dukkha que cette grande sagesse du respect de l'instant peut être explorer, vérifier, questionner. Il est impossible, dit le Bouddha, d'être libéré sans cette rencontre intime avec dukkha, avec ce truc qui tourne pas rond. Et je trouve très beau que deux jours après Vendredi Saint, il y a cette résurrection, cette deuxième naissance, la résurrection du corps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est symbolique. Mais nous avons vraiment deux naissances. La première, c'est la naissance du corps dans un monde conditionné. Nous sommes conditionnés par notre environnement, nos parents, notre karma. Et il y a cette deuxième naissance qui est une naissance à notre nature universelle, en Dieu, diraient les chrétiens, le Sartori, disent les Zen, le Nirvana. Cette rencontre avec un qui suis-je qui est au-delà de cette limite du corps et de l'esprit, ce qu'on peut appeler aussi la conscience pure. Lorsque nous posons l'attention dans le corps, que nous sentons nos fesses sur la chaise, nos mains qui se touchent, le corps qui respire, est-ce que c'est un noir ou un blanc, un homme ou une femme, un vieux ou un jeune? Tout ça tombe. C'est une expérience directe qui est au-delà de ce que nous pouvons nommer et qui par définition sépare. La parole est une représentation de la réalité. Et cette représentation est forcément subjective. Ce que je vous dis résonne de manière personnelle pour chacun d'entre vous. Par contre, sentir la respiration, juste ce mouvement, je peux bien sentir que tout le monde peut sentir à peu près le même truc, ça se lève là, ça se baisse. C'est une qualité d'être. De même que depuis que je vois venir des gens en entretien ou que j'y ai été moi-même, rien ne ressemble plus à l'inquiétude que l'inquiétude. Rien ne ressemble plus à la haine que la haine. L'histoire qui entoure l'inquiétude et qui entoure la haine est complexe à l'infini. Mais l'énergie même, j'ai peur, elle n'a pas, elle n'est pas colorée par toutes ces conditions. Quand dans l'instant, je peux sentir cette peur, on dit que les poils, les cheveux se lèvent sur la tête, les poils se dressent. Ah, j'ai peur. Je ne suis pas en train de me dire, je m'appelle Anne-Michel, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer demain? C'est là. Et nous sommes là pour cultiver cette présence parce que c'est ce qui se rapproche le plus de l'unification. C'est là où nous sommes, on pourrait dire, le moins en exil, le moins séparés. Jésus a eu confiance dans l'instant, il a accepté ce qui se passait pour lui et cette deuxième naissance lui a été donnée. Et dans notre exploration de dukkha, j'emploie ce mot parce que la souffrance, c'est pas tout à fait juste, c'est plutôt une forme d'imperfection ou de déséquilibre, de limite, de manque. Dans notre expérience méditative, dans une retraite, nous pouvons bien reconnaître dukkha. Ça se passe assez souvent. Nous avons des moments merveilleux parce que l'oreille s'ouvre, j'entends mieux. Le regard s'ouvre, je vois mieux. J'ai tout le temps de manger et de goûter. Le goût s'affine, l'odorat. Et peu à peu, ce qui s'affine aussi, c'est cette rencontre avec l'expérience émotionnelle ou sensible dans l'instant qui se purifie. Au lieu que ce que je vois soit toujours filtré par ce que je pense et que je n'arrive au fond pas vraiment à sentir, juste sentir. Parce que je suis déjà en train de me dire tout ce que j'en pense, tout ce qu'il faudrait, tout ce que je devrais, tout ce que l'autre a fait, tout ce que... Wow ! Pénible ! Peu à peu, ça se purifie et les choses deviennent assez simples. J'accepte l'instant tel qu'il est. Je ne suis pas toujours en train de manipuler. Si j'aime, je veux bien, j'attire à moi. Pas toi. si je n'aime pas, je ne veux pas et je rejette, comme je le fais maintenant.
Moi aussi.
Mais par sagesse et respect. Il y a trois aspects à la souffrance. La première, c'est ce qui est évident, ce qu'on appelle dukkha dukkha. Ça fait vraiment mal. Que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique, que ce soit une souffrance que je m'impose à moi-même ou qu'elle vienne de l'extérieur, juste maintenant, c'est vraiment très douloureux. Le deuxième aspect, c'est cette incapacité que nous avons de pouvoir maintenir une expérience agréable. L'impermanence, ce qu'on appelle l'impermanence. Nous ne pouvons pas maintenir une expérience agréable parce que les choses changent, mais aussi parce que nous nous lassons. En fait, nous ne pouvons pas toujours être dans quelque chose qui fait du bien. Je me souviens dans une retraite, franchement, c'était parfait. Tout, hein, la conscience était parfaite, bonne concentration, le corps détendu, tout parfait. Puis ça a duré une heure, deux heures, trois heures, je ne sais plus combien de temps, peut-être un jour. Puis au bout d'un moment, ce qui est venu, c'est ouais, ben, puis quoi ? Puis quoi ? C'était impossible de maintenir cette qualité de agréable. Puis quoi? Et la nature humaine est faite pour le changement. Tout change sans cesse. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Imaginez que vous êtes avec l'âme sœur sur la plus belle plage, avec les meilleurs aliments du monde, un corps délié qui peut nager, courir. Ça durerait combien de temps, cette perfection ? Une semaine, deux semaines, trois semaines, puis quoi ? Nous avons besoin de changement. Et le troisième aspect de la souffrance, c'est ce qu'on appelle les khandhas, c'est-à-dire la limite de la personnalité. Quelquefois, je me dis que si je pouvais avoir les qualités de, je sais pas, d'Anémone, de Valérie et puis d'Ondi, waouh, si on pouvait avoir les qualités des autres, qu'est-ce qu'on serait bien, hein? Mais non, nous sommes limités à une couleur qui est particulière. Et avec le monde extérieur, toute notre vie est toujours conditionnée. Nous n'avons pas vraiment d'autonomie. Si je vous parle, c'est parce que vous êtes là. Et si vous êtes là, c'est parce que je vous parle. C'était Nasruddin une fois qui, je ne sais pas si je vais bien pouvoir la dire, elle me vient cette histoire, qui marchait le long d'une route et puis tout d'un coup, il voit venir un nuage de poussière au loin puis il se dit, oh là là, ça, il y a des bandits, il faut vite que je me cache. Et puis il saute dans les buissons. Et puis les gens qui arrivaient, qui étaient des marchands, ont vu juste les pieds de Nasruddin qui partaient dans le buisson. Puis ils se sont dit, oh là là, celui-ci, il n'a pas la conscience tranquille. On va voir qui c'est. Puis quand ils sont arrivés, ils ont été sortir Nasruddin. Puis il a dit, mais tu fais quoi là, toi ? Il a dit, bah, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis là à cause de vous, puis que vous êtes là à cause de moi. D'une certaine manière, ce que nos sens nous donnent à vivre dans ce contact, ressenti, perception et construction, ça n'est pas vraiment suffisant. Ça a un goût de manque. Et c'est pour ça que nous sommes toujours à questionner, mais quoi après ? Et puis après, encore, et puis maintenant. Cette force du désir qui nous pousse toujours dans la projection et l'anticipation. Donc la souffrance est quelque chose que nous pouvons vérifier lorsque nous nous approchons de nous-mêmes, lorsque nous vivons dans notre intimité. Et c'est ce qu'a fait le Bouddha. Il est vraiment allé voir, mais qu'est-ce que c'est que cet homme qui est là ? Et ce qu'il a vu, c'est que la souffrance, ou cette manière que ça ne tombe pas rond, c'est inéluctable. C'est une vérité. Mais il a aussi vu qu'il y avait une fin possible à cette souffrance, mais ce n'est pas celle que le moi aimerait trouver. Je vais vous lire une petite parole d'Ajahn Chah. Il y a deux sortes de souffrances. La souffrance qui mène à plus de souffrance et la souffrance qui mène à la libération de la souffrance. La première est l'attachement au plaisir éphémère et l'aversion pour les expériences désagréables, la lutte incessante de la plupart d'entre nous jour après jour. La seconde est la souffrance qui vient quand vous vous permettez de sentir pleinement le changement perpétuel de vos expériences, plaisir, peine, joie, colère, sans peur et sans fuite. La souffrance de nos expériences dans l'instant nous libère de la peur et nous mène à la paix intérieure. C'est cette deuxième naissance qui fait que, au fond, je me dégage du monde. On me met dans le monde et mon boulot, c'est de me dégager du monde et de regarder ce monde, de le contempler, de l'observer de manière intime, dans une vraie rencontre, mais sans aveuglement, sans être emprisonné dans l'objet du désir. Et c'est un développement de la conscience qui prend du temps, qui prend du soin, qui demande de la patience, de la bonté, beaucoup de bienveillance. Et en même temps, un engagement sérieux, une résolution, de la détermination. Parce que cette résistance à la souffrance est extrêmement profonde. Nous croyons toujours que l'herbe est plus verte dans le champ d'à côté. Qu'est-ce que je vais vous lire ? Je vais vous lire Ajahn Sumedho peut-être. Quand vous essayez de vous débarrasser de la peur, de la haine, que se passe-t-il ? Vous devenez simplement agité ou découragé et vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller manger ou fumer ou boire ou faire quelque chose d'autre. Mais si vous attendez et que vous supportez l'agitation, l'avidité, la colère, le doute, le désespoir, l'envie de dormir, si vous observez ces conditions, au moment où elle cesse, vous atteignez une sorte de calme et de clarté mentale auquel vous ne parviendrez jamais si vous êtes toujours en train de courir après quelque chose d'autre. Dans cette quête de qui suis-je, la question c'est est-ce que je suis seulement ce que toutes les indications que me donnent mes sens et ma pensée, ou bien est-ce que je suis beaucoup plus? Est-ce que je suis seulement cet être temporel qui fait un court passage sur cette planète, ou est-ce que je suis beaucoup plus? Et avec la pleine conscience, peu à peu, nous nous rendons compte que lorsqu'il y a cet acte de connaissance, eh bien, je suis cet observateur silencieux. Je suis une conscience large qui peut recevoir tout, mais qui n'est plus tellement moi. Il n'y a plus tellement de moi. Et ce qui est beau dans le bouddhisme, c'est que ce chemin immédiat, il est toujours accessible. Il suffit que je m'en souvienne et que je veuille bien être là. Juste maintenant, j'y suis. Au fond, ce qui détermine la libération dans nos vies, c'est la compétence de revenir ici et maintenant à cette goutte de présence qui est suffisante. Viveka, rendre les choses vivantes. Nous rendons les choses vivantes par la conscience. Souvent, les moments où nous nous approchons de la mort nous mettent dans cette urgence de vivre quelque chose d'autre que cette complexité du monde qui nous fascine. J'avais une amie qui est malheureusement décédée d'une leucémie. Et au moment de sa mort, il y a vraiment eu ces deux choses. D'abord, cette ouverture sensorielle extraordinaire. Elle savait que c'était la dernière fois qu'elle goûtait quelque chose. Et puis, on était avec ma sœur. On lui avait fait une tisane de thym. C'était la seule chose qu'elle pouvait encore prendre. Et elle avait bu une cuillère de cette tisane de thym. Et puis, elle avait dit, oh, c'est délicieux. Ça pouvait pas être mieux. C'était un moment de rencontre totale avec quelque chose de simple. Et puis après, elle a fait ce qu'on appelle une near-death experiment, quelque chose où on passe au-delà. Et c'était très beau. Elle a voulu qu'on enlève tout, la morphine, les antidouleurs, tout le chariot loin. Elle était dans un état déplorable physiquement. Et ça a duré longtemps, presque toute la nuit. Et d'ailleurs, il y a un gars de Caritas qui venait à minuit puis qui était très fâché parce qu'on était fatigué avec ma soeur, on voulait aller dormir. On ne pouvait pas aller dormir, on la veillait dans une. Tout avait une espèce de lumière extraordinaire. Il était fâché, le gars, il était venu pour rien. Et puis, ça a duré, elle ne voulait plus qu'on la touche, c'était nous qui la touchions. Elle a plus voulu qu'on la touche, c'est elle qui nous touchait. Puis elle essayait de nous montrer où elle était. Elle ne pouvait pas. Et puis moi, je sentais bien, j'ai médité, je pouvais aller à un bout, mais après, je sentais qu'elle était au-delà. Et puis, que je ne pouvais pas aller là. Et puis le matin, ça a passé, c'était fini. Alors j'ai été dire à l'infirmière de tout remettre, les trucs, les morphines, tout ça. Et puis je suis allée vers elle, puis je lui ai dit, mais Dasha, tu vois, toi qui disais, puis je ne sais pas comment lui dire. Alors je lui ai dit, toi qui disais toujours que tu n'avais pas la foi. Puis elle m'a dit, mais Anne, tout le monde a la foi, mais on ne le sait pas. nous ne savons pas la profondeur de notre appartenance à une plénitude inimaginable et impossible à nommer. C'est normal qu'il y ait du doute. C'est normal qu'il y ait de l'inquiétude, de la haine, de la confusion. C'est le monde. Et nous vérifions le monde en nous-mêmes. Et lorsque nous pouvons nommer et rencontrer ces énergies douloureuses, lorsque nous arrêtons de les tenir à distance, de les juger, d'en faire quelque chose, d'identifier, de croire que c'est mal, elles perdent leur aspect redoutable et envahissant. Et alors nous nous rendons compte que c'est nous qui créons le problème. Ce ne sont pas ces énergies-là. C'est nous qui leur laissons le pouvoir. Nous créons le mal en le rejetant. Il n'y a pas de mal autrement. Nous nous rendons nous-mêmes prisonniers de notre haine, de notre obstination, de notre gêne, de notre peur, de notre culpabilité. Et nous créons la souffrance de deux manières. D'une part, par la routine. Dans l'assise, il y a une forme de routine qui vient dans nos vies. Nous avons nos habitudes, nos stratégies. Nous ne questionnons plus. Nous venons nous asseoir avec déjà notre agenda. Je viens m'asseoir, je sais déjà ce qu'il va y avoir. Il n'y a pas d'éveil. Il y a quelque chose qui dit « je sais ». Et l'autre aspect, c'est l'ambition. Je veux arriver. Ou je ne veux pas vivre ça. C'est également une manière erronée de nous situer par rapport à l'expérience. Parce qu'il y a un manque de confiance. Quelle est l'expérience juste maintenant? Et puis comment c'est? Et ce qui empêche la vigilance, ce sont tous ces obstacles qui ne sont pas conscientisés. Je vous rappelle les 5 obstacles que chacun d'entre vous probablement vive dans ce début de retraite. L'aversion ou le désir, qui est-ce qui n'a jamais eu d'aversion ni de désir aujourd'hui? La somnolence ou l'agitation, qui n'a jamais eu de rêverie, somnolence ou d'agitation aujourd'hui? Et le doute, qui est-ce qui n'a eu aucun doute aujourd'hui? Vous osez le dire, hein? Nous ne pouvons rien faire pour éviter les obstacles, mais nous pouvons en devenir maître. Et en devenir maître, ça n'est pas ni les annihiler, ni les contrôler, c'est nous ouvrir à l'agitation. Je me souviens une fois dans une retraite zen, j'ai été faire une fois une retraite zen, c'était très intéressant, avec tous les Chinois. C'est bien. Tout d'un coup, j'ai de nouveau eu de l'agitation, j'en avais plus depuis longtemps. Alors d'abord, j'ai eu une sorte de choc. Oh tiens, c'est agité. Et puis après, ça affecte tout de suite la non-réactivité. Il y a d'abord eu une envie de réagir, j'ai très bien senti une envie de pas vouloir, et puis après, eh bien, c'est pas resté. Parce que les choses restent du fait que nous ne comprenons pas qu'elles sont bonnes. Nous voulons autre chose. Et c'est plus ou moins, c'est dans les cellules. C'est plus ou moins conscient. C'est pour ça que nous avons à répéter encore et encore que ça n'est pas l'expérience qui est le problème. C'est la manière avec laquelle je me situe face à l'expérience. Et quand je crée un moi qui devrait, qui aurait dû, qui faudrait, ou un tu, un toi, ou un ça, ça va pas, c'est pas comme ça que ça devrait être. Je suis au cœur de l'aveuglement. Parce que rien, jamais, n'est ailleurs qu'ici et maintenant. Et c'est difficile à comprendre vraiment. Et ce qui aide à manifester la vigilance et la pleine conscience, c'est cette conquête de la souffrance, qui est le contraire de la supprimer ou de l'annihiler. Il y a une conquête, il y a... Lorsque nous avons un amoureux, nous voulons le conquérir. Nous ouvrons notre cœur. Et alors, nous commençons avec la lumière de la conscience, nous commençons à voir dukkha aussi dans nos manières de faire. Je ne veux pas gêner, je ne veux pas m'imposer, ou bien alors je veux être un peu dominatrice, j'y vais, quoi. Et c'est compliqué. Et alors, il y a la peur d'avoir peur, je suis un peu inquiète d'être inquiète, il ne faudrait pas que je sois inquiète. Il y a l'agacement d'avoir de la colère, j'aimerais plus cette colère, ça ne va pas. Il y a toujours ces doubles messages, c'est tellement confus, mais j'aimerais tellement être claire. Ça ne marche pas comme ça. Si c'est confus et que je m'ouvre à la confusion, dans l'instant, je suis dans la cible. En fait, je suis dans le discernement et la clarté. La pleine conscience au corps est importante. C'est une des manières de ne pas nous contracter devant la souffrance, se souvenir de revenir au corps. Et si le corps est douloureux, il n'est pas douloureux partout. Je peux aller ailleurs dans le corps, dans un endroit qui est bienfaisant. Je peux aussi explorer la souffrance du corps sans en faire une douleur. Mais en l'explorant sous forme de ressenti, comment c'est? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Je me souviens, je vous donne des exemples parce que c'est ce que je peux faire de plus parlant. Dans une retraite, tout d'un coup, c'était chez Bhante Bodhidharma, tout d'un coup j'ai de nouveau eu terriblement mal aux genoux. Je ne sais pas pourquoi, mal. Eh bien, je pouvais vraiment voir. Si je me disais, ouh, il y a une douleur dans le genou, mais qu'est-ce que ça faisait mal? Si je me disais, attends, alors c'est comment? C'est des picotements, ça fait plutôt des lumières, ça fait comment? Ah, ça devenait drôlement intéressant. Et la douleur était... c'était plus de la douleur, en fait. C'était une expérience sensorielle. Donc, le corps est un moyen de nous ancrer dans quelque chose qui est du réel plutôt que dans la pensée qui représente la souffrance, qui parle de la souffrance et qui la maintient, qui la fait durer. Je reviens au corps. Mais ça n'est pas toujours possible parce que le corps n'est pas toujours notre meilleur ami. Selon les contacts qu'il a pu recevoir, des contacts traumatiques, douloureux, le corps se crispe et il reste crispé. Et au contraire, quand je mets l'attention dans le corps, il se crispe encore plus. Et c'est l'expérience de plusieurs personnes que si je mets la conscience sur la respiration, ça respire mal. Ça devient tendu, douloureux même. Alors l'alternative, c'est le refuge. Je lâche le corps et je peux venir dans un refuge qui est extérieur. Je demande une aide extérieure. Et chacun le fait à sa manière. C'est quelle heure? Je peux raconter une petite histoire encore. Vous voulez? Ceux qui veulent pas, ils osent pas le dire, ça. C'était nouveau, déjà de nouveau dans une retraite. Et puis, j'ai vécu une sorte, c'était vraiment une sorte de songe, comme une vie passée. C'était une image où j'avais été torturée ou violée, je ne sais pas. Je n'ai pas vu ce qui s'était passé, mais c'était dans une maison, j'étais dans le désert, près de Los Angeles. Et puis, c'était une maison qui ressemblait tout à fait à ça. Puis, c'était passé quelque chose que je n'ai pas vécu dans cette vie, je le sais. Mais quelque chose de l'ordre d'un trauma, mais massif, avec plusieurs personnes. Et puis je courais, j'arrivais pas à voir si j'étais un homme ou une femme, mais j'étais jeune. Et puis je courais et j'avais perdu mon moi. Je ne pouvais plus dire qui j'étais. Le trauma avait été si fort que j'arrivais pas à me retrouver moi-même. Et puis c'était puissant parce que j'allais m'asseoir, il y avait des petites tables rondes et j'avais peur de tout le monde. Une parano, mais massive. Le Buddha Hall était assez loin, puis quelquefois je marchais jusqu'au Buddha Hall, là dans le sable, puis il y a quelqu'un qui sortait de la salle de méditation, puis qui venait sur le même sentier, mais oh, cette personne qui s'approchait, c'était comme si le diable arrivait. Alors qu'est-ce que je faisais de ça, quoi? J'étais là pour un mois. Et ce que j'ai imaginé d'abord, c'était de me construire une protection, un espèce de mur autour de moi. Et puis je me mettais à l'intérieur du mur et puis je pouvais un petit peu mieux respirer. Mais ça ne suffisait pas. J'allais toujours vérifier, voir si j'étais plus ou moins libre d'aller rencontrer des gens ou non. Puis je ne l'étais pas. Et puis après, j'ai imaginé une sorte de grand ange qui venait puis qui mettait ses ailes derrière et qui me tenait comme ça. Et je faisais ça pendant des heures. Je laissais cet ange me donner sa force. Et peu à peu, j'ai retrouvé mon moi. Mais c'était une expérience très touchante, parce que j'ai pu comprendre vraiment ce que c'est tous ces gens qui vivent des expériences traumatiques, puissamment traumatiques. Et comment nous ne pouvons pas avoir une possibilité d'entrer en amitié avec nous-mêmes quand le choc a été trop puissant. Nous avons besoin du refuge. Et la prise de refuge dans le Bouddha Dharma Sangha, c'est une pratique importante que nous allons faire ce soir, dans le sens d'abandonner cette croyance que je peux tout, moi, et de demander simplement que l'univers nous donne ce qu'il peut nous donner pour nous aider sur le chemin. Et alors, nous arrêtons de nous contracter devant la souffrance et de créer un moi qui reste fixe. Je maintiens les choses. Donc, revenir au corps, prendre refuge et vipassana, voir les choses telles qu'elles sont. Quand la souffrance émerge, comment c'est ? J'arrête de vouloir que ce soit pas là. J'arrête. Personne ne peut arrêter pour nous. Bien sûr que je vais toujours avoir envie que ce soit pas là. Mais j'arrête de le vouloir, ce qui est autre chose. Donc, cette première vérité qui s'appelle Dukkha, nous l'entendons. Et quand nous l'entendons, ça résonne plus ou moins, ça paraît plus ou moins intéressant. Moi, je me souviens, la première fois que je l'ai entendu, ça m'a beaucoup soulagée. Et je me suis rendu compte combien je m'imposais d'être parfaite. Et quand on m'a dit, mais tu sais, t'as pas besoin, parce que de toute façon, il y a de la souffrance, c'est normal. Oh. Et alors après, nous le comprenons, c'est-à-dire que nous l'intégrons, nous le vérifions, nous le travaillons. Et à un moment donné, nous avons compris. Nous avons compris, ça veut dire que nous savons vraiment que toute épreuve est à la hauteur de ce que nous pouvons recevoir. Qu'il n'y a rien qui est malchance. Qu'il n'y a rien qui est erreur. Et bravement, on se met en route pour vivre cette vie imparfaite, merveilleuse, terrible, à laquelle nous, dans laquelle nous nous engageons, mais à laquelle nous n'appartenons pas vraiment. C'est le Christ qui a dit « Je vous ai mis dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » Et alors nous pouvons faire notre part là, avec ça, avec les autres, avec les conditions qui sont des fois bonnes, des fois mauvaises, mais avec une attitude, un lien à ces conditions qui est qui tourneront, ça tourneront. Ça tourneront dans tout ce qui ne tourne pas rond. Ou avec tout ce qui tourne pas rond. Je vais finir avec une parole. J'ai pas mis d'où je l'ai tirée. J'ai eu peur, j'ai été battue, le vent a dispersé mes espoirs. La neige m'a gelée, le soleil m'a cuit. On dirait qu'ils se sont liés pour essayer de me faire arrêter de rire. Arrêter d'aimer, arrêter de vivre. Mais peu m'importe, je suis juste là. Je vous propose de prendre 5 minutes en silence.